France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir à l'engouement pour la chose culinaire. Une partie des Français veulent apprendre à cuisiner du simple passe-temps jusqu'à la reconversion professionnelle. Depuis plusieurs années, des ateliers d'art culinaire se développent. Et ça ne date pas d'hier, hein. Les premières écoles sont apparues en France à la fin du 19e siècle. Des cours de cuisine pour enfants aussi, pour les sensibiliser à ce qu'il y a dans nos assiettes. Les initier au goût, au respect des saisons également. L'engouement pour la chose culinaire, elle a connu un regain d'intérêt pendant et après la séquence Covid. On a vu alors se développer sur Internet des tutoriels de plats cuisinés faits maison, et c'est important. Des chefs étoilés ont suivi en encadrant donc des ateliers ouverts au grand public. Des cours de cuisine, comme on prendrait des cours de bricolage, de jardinage ou de piano. L'engouement pour l'art culinaire, c'est le thème ce soir d'une semaine en France.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage pour commencer. Bonsoir Stéphane Huyck des Pointes.
Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes un Parisien, c'est que ça génère, vous travaillez dans la finance. Et il y a 6 ans, vous avez souhaité prendre des cours de cuisine dans un atelier. Avec quel objectif d'ailleurs?
C'est assez simple. J'aimais la cuisine, mais j'étais conscient que je ne savais pas faire grand-chose ou pas assez de choses. Et les cours de cuisine en ligne se développaient. Et l'atelier des chefs, je vois cette offre. Et j'appelle Nicolas Bergerot, que je connaissais.
Qui sera notre invité dans un instant.
Voilà. Et je lui dis, est-ce que tu crois que je serais capable de le faire? Et il me dit, mais vas-y, fonce. Voilà. Et donc, c'était pour moi un moyen d'améliorer le peu que je savais. Donc je partais de bas, donc je pouvais que progresser. Et voilà, donc c'était par goût, et la cuisine étant un sujet très convivial, ça faisait plaisir à tout le monde.
Mais ça n'a pas été pour autant une vocation contrariée quand vous étiez plus jeune, si?
Non, pas du tout. J'ai pas baigné dans le milieu de la cuisine dans ma jeunesse.
Comment la séquence Covid a-t-elle été motrice dans votre projet?
Alors, en fait, moi, j'ai passé le CAP avant le Covid, mais pendant le Covid, c'est vrai que ça a été un complément, hein, c'est-à-dire que on avait encore plus de temps pour s'amuser et faire des plats sympathiques.
Et ce CAP cuisine, vous en avez fait quoi au final?
Au final, j'avais pas de vocation ou de reconversion en cible. En revanche, ce CAP, c'était un programme assez complet, assez structuré, qui passait tout en revue. Hein. Ça va de la préparation des ingrédients, les sauces, les cuissons. Donc tout ça, c'était finalement tellement complet que, partant de très loin, j'ai pu parfaire mon savoir culinaire.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que faire la cuisine, c'est plus technique que ce que vous aviez imaginé?
Oui, en fait, ça ne s'invente pas. Il y a notamment les cuissons, hein, c'est comprendre comment se font les cuissons. Ça ne s'invente pas. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, et j'ai pu effectivement, grâce à ça, améliorer et faire plaisir autour de moi.
Parlez-nous du vocabulaire aussi. Il y a un vocabulaire spécifique qui peut être un peu... Enfin, il faut rentrer dedans, j'imagine. Hein. Ça ne vient pas comme ça, là non plus.
Oui, il y a un vocabulaire, c'est vrai, que vous devez savoir, ou que vous apprenez au fil des leçons. C'est vrai que quand vous lisez une recette, parfois, si vous n'avez pas tous les termes, vous la comprenez pas forcément.
Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne.
Je sais pas, quand on vous dit couper en brunoise des légumes.
Je dirais des petits rectangles un peu, de fins rectangles, je dirais des fins.
Des petits cubes.
Des petits cubes. C'est des cubes.
Voilà.
C'est des cubes.
Voilà. Et petits. Voilà.
Expliquez-nous à quoi ressemblait le concours de CAP Cuisine.
Alors, le CAP, c'est un examen national. Donc, la formation en ligne, c'est un peu contre-intuitif de penser que vous pouvez faire en ligne une formation manuelle. En revanche, vous avez donc des chapitres de présentation et des exercices d'application. Ça, c'est le programme de formation. Et ensuite, vous passez un examen qui est l'examen dans un centre officiel. Et vous arrivez le matin, on vous donne votre sujet. et vous avez entrée plat ou plat dessert à réaliser dans un laps de temps donné avec la fiche technique. On vous donne les ingrédients, on vous dit ben réalisez ceci, ceci, cela et ça doit partir au pass. Donc vous le servez à telle heure.
Ça ressemble un petit peu vu de loin à ce qu'on voit dans certaines émissions de télévision. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec François-Régis Gaudry. Merci beaucoup de ce témoignage, Stéphane Hugues Despointes. Et puis on verra tout à l'heure l'envers du décor avec le fondateur de l'atelier des chefs. Pour l'heure, nous partons à la rencontre d'un homme qui ne veut pas voir disparaître toutes les recettes de celles qu'il appelle les mamies qui ont connu la guerre. C'est un sommelier bordelais. Il a entrepris un tour de France des mamies qui ont un savoir-faire d'antan et puis le goût du fait maison. Et lui, il s'appelle Rémi Dispersin et à chaque fois, avec la mamie, il a refait la recette en même temps qu'elle. Nous allons dans le Gers, près de Auch, en pays gascon, à Saint-Martin. Nous sommes chez Marguerite. Elle est centenaire, Marguerite. La recette du jour, le tourin à l'ail, une belle histoire de transmission de patrimoine gastronomique. Reportage micro ouvert de Sandrine Houdin.
Bonjour Marguerite.
La centenaire affiche un grand sourire. Ça sent bon déjà.
Ça sent bon, ça mijote. Je prends un tablier.
Oui. Tourin à l'ail, c'est toute l'enfance gersoise de Marguerite.
Bon, je vous laisse faire, là, pour le petit cours de cuisine. Enfin, le grand cours de cuisine, hein.
Le prof et l'élève, l'un à côté de l'autre.
On pèle l'ail.
On pèle l'ail.
Voilà, l'atelier commence.
Couteau.
Le premier tiroir.
On pèle combien de gousses d'ail, à peu près, Marguerite?
Comme ça, là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Le commis, l'élève, là, ce serait pour vous finalement un gâchis que ces recettes partent avec toutes ces grand-mères?
Voilà, faut pas que ça parte aux oubliettes, il faut conserver le patrimoine gastronomique. C'est notre identité.
Ça vous est venu comment?
Ça commençait avec la grand-mère de ma compagne, Marie-Thérèse. Je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire justement le tour de France d'un savoir qui se transmet de génération en génération.
C'est bien parce qu'on garde comme ça l'histoire d'autrefois. C'est ma grand-mère qui avait ses recettes et tout ça. C'est ma mère qui les a continuées. C'est la mémoire d'autrefois.
Avec ses mille et une petites astuces.
Je mets du tapioca pour compenser le pain.
Ok.
Ça, c'est important aussi, leurs petits trucs.
Ah oui, bien sûr. Quand je suis avec les grand-mères, on n'est pas avec un livre, en fait, de recettes classiques. Elles ont toutes leurs petits secrets. Et c'est ce qui les différencie, en fait.
Comment je fais? Abisto de nas.
À quoi?
Abisto de nas. À vue de nez.
Rémi noircit son bloc-notes.
Votre carnet, là, essentiel?
Ah, mais c'est mon meilleur ami, mon carnet.
Bon. Je verse le bordelais que j'ai préparé.
Très bien, chef.
Chef.
Ah oui, c'est le chef. Donc là, Marguerite, vous m'écrasez l'ail dans de l'eau frémissante.
Voilà.
Ok.
Et il note, et il note, et il note, et il note. Marguerite, à quelle occasion on mangeait du tourin?
Les femmes, autrefois, pendant les travaux des champs, les foins, tout ça, elles revenaient à la maison et elles n'avaient pas trop de temps pour faire la cuisine. Alors elles faisaient ce tourin. Dans la soupière, on coupait des tranches de pain avec les œufs et les trucs. Ça faisait un plat...
Qui tenait au corps.
Oui.
La Marguerite, tu fais quoi?
Là, je sépare les blancs des jaunes. On touille le blanc d'œuf.
Est-ce que c'est un bon élève, Rémi?
Très bon, très gentil.
Et voilà, le professeur a tout dit.
C'est des cours de cuisine un peu spéciaux, hein?
Que pour moi. Une école de privilégiés. Pendant un instant, je suis le petit-fils.
Bon.
Le pain.
À table. Assiette. Verre et couvert.
Allez, Rémi, tu te ramènes tout le monde?
La famille de Marguerite a fait le déplacement.
Comment vous trouvez cette école de cuisine peu ordinaire?
Ah, moi, je trouve ça génial parce qu'il y a un savoir-faire qui n'est pas forcément écrit dans les recettes de chefs cuisiniers. Parce qu'une grand-mère ne va pas aller chercher des produits super sophistiqués. Elle va faire avec ce qu'elle a sous la main. Donc, elle va improviser. Et après, elle met au point une recette, mais qui change tout le temps. Moi, je le vois avec ma mère. Quand je la vois faire, je redécouvre une manière différente parce que, entre-temps, il lui manquait quelque chose. Du coup, hop, elle a improvisé avec autre chose. Les chefs sont des artistes, mais les mamies, c'est la touche en plus. Grande merci, monsieur Rémi. Grand merci, Rémi.
Alors, Rémi va goûter. Hein.
C'est ça. Déjà, on a goûté avec les yeux. Maintenant, on va goûter avec les papilles.
Attention.
Alors?
Le verdict, c'est quoi?
C'est délicieux. S'il faut une note, c'est 20 sur 20.
Ah bon?
Et comment on dit c'est bon en gascon?
Qui boum?
Bravo, Marguerite.
patapim patapam. No sei d'on he sortido. No m'ha pas brigues piate, m'he perdut su piquera amb i la set. Patapim patapam. No sei so qui m'arribo. I xeis na de pietat que embalo su camí, que camina tot dret. No sei pas le son.
Voilà, à table et en musique, le groupe Nadao pour cette recette du Tourin à l'ail chez cette centenaire Marguerite dans le Gers pour transmettre le patrimoine gastronomique français. Reportage de Sandrine Houdin. L'engouement pour les cours de cuisine. On va en parler à présent avec vous, Nicolas Bergerot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le fondateur de ce que notre premier invité évoquait, l'atelier des chefs créé il y a plus de 20 ans, formation digitale à distance, donc, et aussi en présentiel pour ceux qui le souhaitent. Comment fonctionnent en fait vos sessions ?
En fait, il y a deux approches. Il y a l'approche pour les amateurs, des cours de cuisine à Paris, à Lyon, à Toulouse, des cours de cuisine pour le grand public, pour faire redécouvrir le plaisir de la cuisine. C'était très émouvant d'entendre cette centenaire transmettre sa recette. Et en fait, au début des années 70, les mamans se sont mises à travailler et la transmission du savoir-faire culinaire s'est soudainement rompue de mère à fille. Bon. Et en 2004, quand on s'est pointé sur le marché avec mon frère et avec Jean-Sébastien Bonpoil qui venait du Ritz, on s'est rendu compte que il y avait un vrai manque de culture culinaire de la cuisine de tous les jours. Savoir faire un bon hachis parmentier, une mousse au chocolat, une bavette aux échalotes, le fait maison, comme vous le disiez tout à l'heure, un saisonnier, savoir cuisiner autre chose que des patates et des nouilles, quoi. Donc on a vraiment lancé ces cours de cuisine pour les amateurs. Et puis petit à petit, on a aussi rajouté un volet formation professionnelle, c'est la formation qu'a faite Stéphane, une formation pour préparer le CAP de cuisine, mais là, pour qu'elle soit accessible à tous, on l'a faite en digital, et comme il disait, c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche.
Quelle est votre approche pédagogique ?
Alors, sur la formation pro, l'objectif, en fait, il y a 200 heures de théorie, 200 heures de pratique. Et comme le dit Jean-Sébastien, donc notre associé qui lui-même est chef, il dit, mon objectif, c'est que les gens n'aient qu'une envie, c'est de quitter la plateforme. Alors, il faut que la plateforme, elle donne bien tous les gestes. La brunoise, vous l'évoquiez tout à l'heure, la brunoise, la julienne, savoir bien lever un filet de poisson, s'il a deux filets ou quatre filets, s'il est rond ou s'il est plat. Ok, on apprend la théorie, on regarde bien, on explique le pourquoi encore plus que le quoi ou le comment. La structure du poisson va changer la façon de lever le filet. Et après, surtout, on dit, faites des exercices. Parce qu'on a beau avoir regardé comment lever un filet de maquereau, faut massacrer quelques kilos de maquereau avant de vraiment bien le faire. Donc, on veut vraiment faire pratiquer. Tous ces métiers manuels, il faut faire, répéter 100 fois remettre 100 fois sur le métier son ouvrage.
Avec une ambition de cuisine plus responsable. Par exemple, vous apprenez à vos élèves à ne plus considérer le légume comme une simple garniture, mais parfois comme un plat principal.
Alors, on a également lancé, effectivement, une formation 100% digitale à la cuisine, 100% végétale. Et en fait, ces CAP, c'est toutes les bases techniques qui permettent ensuite de faire toutes les techniques, de faire toutes les recettes, de faire tous les styles de cuisine. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a des demandes vers la cuisine végétale, vers des cuisines, ou en tout cas, avec un meilleur équilibre entre les protéines animales et le végétal, la cuisine flexitarienne. Les gens veulent en fait manger moins de protéines animales, mais des meilleures.
C'est un courant que vous sentez durable là aussi ?
Oui, ça c'est un courant durable. Autant on a eu des modes qui sont passées, la cuisine moléculaire ou tous ces trucs-là, on sentait bien que ça allait pas prendre. Autant, la cuisine saisonnière, et deux, la cuisine plus flexitarienne, ouais, ça c'est une vague de longue durée.
Vous êtes un atelier donc certifié, puisqu'il y a des CAP, vous êtes diplômant. Quels sont les postes auxquels peuvent prétendre vos diplômés ?
Alors, un diplômé, il va être capable d'être commis de cuisine.
Mais commis de cuisine, il faut expliquer ce que c'est aujourd'hui.
Commis de cuisine, c'est le premier poste. C'est celui à qui on va demander justement de préparer les légumes, de lever les filets de poisson, de désosser les volailles à cru, etc., etc. Après, selon, j'ai envie de dire, la passion qu'il va émettre et le travail qu'il va émettre, il va pouvoir monter plus ou moins vite. Bon, et puis, il y a ceux qui ont déjà pas mal pratiqué et qui vont pouvoir ouvrir leur resto ou leur food truck tout de suite. Mais vraiment, au départ, on est au niveau du commis de cuisine, et comme dit Jean-Seb, en fait, il faut un an pour passer son CAP, 5 ans pour devenir cuisinier, et encore 5 ans pour devenir chef. C'est long, c'est un long apprentissage, hein, c'est un métier où il faut vraiment faire ses gammes et ensuite travailler.
L'apprentissage est long, mais n'empêche que quand les métiers de bouche peinent à recruter, vos diplômés doivent être embauchés assez rapidement.
Ah bah immédiatement, c'est fascinant, on a une association des anciens, l'Alumni, l'Atelier des Chefs, et donc on publie des offres d'emploi tout le temps, et ça alors vraiment ils n'ont pas de problème pour trouver des jobs.
Comment vous expliquez le fait qu'une partie de la jeunesse ne souhaite plus se diriger vers ces métiers ? On dit que parce qu'ils sont pénibles et que les horaires ne conviennent pas. C'est la seule raison ?
Alors, c'est un élément. Ils sont trop contents d'aller au resto, mais ils n'aiment pas être ceux qui travaillent dans les restos. Bon. Après, je crois que tous les employeurs, et pas simplement en restauration, mais dans tous les métiers d'artisanat, doivent comprendre que les jeunes ont changé et qu'on n'accueille plus les jeunes qui veulent bosser dans la restauration aujourd'hui comme on les a accueillis il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, c'était à la Schlag ?
Ben, c'était à la Schlag, on leur tapait dessus, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de ceci. Maintenant, en fait, les jeunes ne sont pas prêts à ça. Donc, c'est aux restaurateurs, c'est aux patrons de s'adapter, de respecter à la fois le code du travail, mais aussi, simplement dire bonjour, faire goûter les plats, faire aimer le métier. On n'est pas là pour se faire que engueuler, on n'est pas là que pour se faire taper dessus et se prendre des coups de casserole.
L'engouement pour les cours de cuisine, on voit que ça marche depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des périodes creuses pour autant dans ces...
Non, depuis 20 ans, on sent que vraiment c'est reparti profondément, avec en plus le soutien maintenant des émissions de télé, vous les évoquiez tout à l'heure, des réseaux sociaux. Mais le réseau social, tout d'un coup, vous voyez sur Insta une belle recette, c'est pas parce que vous la voyez que vous savez la faire.
Donc elle est belle à l'image, mais elle n'est pas facile à faire.
Stéphane, il le disait tout à l'heure, en fait, pour pouvoir vraiment s'éclater en cuisine, il faut avoir des bases techniques. Vous mettez devant un piano pour jouer de la musique, vous ferez au clair de la lune avec un doigt, mais si vous ne travaillez pas, vous ne saurez pas faire.
Merci beaucoup Nicolas Bergerot, fondateur donc de l'Atelier des Chefs créé il y a plus de 20 ans. Dans un instant, après la pause musicale, on va voir que l'engouement pour la chose culinaire se décline aussi à la télévision et dans les livres. Rendez-vous dans un instant avec François-Régis Gaudry. Pour l'instant, voici Gaëtan Roussel.
Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier, de contredire. Oui, de t'enfuir. Ta part de vivre le meilleur comme le pire. Ta part de vouloir, de recevoir, de réussir. Ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire. Ta part entière, ta liberté, tendre et chère. Ta part d'ombre, de lumière, des sons. Ta part de virage, de ligne droite, tes deux visages. Ta part d'ange et de démon. Ah oui, ta part change. Ta part de raison. Ainsi soit-il. Quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal.
Extrait du dernier album de Gaëtan Roussel. C'est le choix de Djoubaka. À la technique ce soir, Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Philippe Duclos. Un grand merci à tous les trois.
France Inter, le 18-20.
L'engouement pour la chose culinaire, on en parle à présent avec un journaliste, un critique gastronomique. On va le mettre un peu sur le grill pendant quelques minutes. On va le déguster même. Bonsoir François-Régis Gaudry.
Bonsoir Eric.
Est-il besoin de rappeler que vous êtes notre spécialiste gastronomie à France Inter, aussi à la télé, sur Paris Première, sur M6, dans les bouquins également. On va en parler dans un instant, vous illustrez à vous seul cet engouement national pour l'art culinaire. Les émissions de télé, au fil des saisons, on a eu le sentiment que les candidats, qui étaient et qui sont toujours des amateurs, apparaissaient de plus en plus comme des professionnels. Le niveau a réellement monté au fil des années?
Ah oui, très clairement. Ça, je le sens et je le perçois à chacun de mes tournages. J'ai la chance de participer à l'émission Top Chef depuis 2019. J'ai commencé l'aventure juste avant le confinement, sachant que en février prochain sera diffusée la 17e saison de Top Chef sur M6. Une émission avec une telle longévité, ça court pas les rues sur notre PAF. Mais je me suis rendu compte, effectivement, en quelques saisons depuis 2019, que le niveau technique des candidats et plus généralement la culture gastronomique des jeunes candidats qui s'inscrivent dans cette émission monte en puissance. Les jeunes aujourd'hui musclent leur jeu. Moi-même, en tant que critique gastronomique, en tant que dégustateur, je goûte des prouesses qui parfois sont au niveau d'un restaurant 2 voire 3 étoiles Michelin.
Les émissions culinaires, elles existent aussi dans d'autres pays que la France, évidemment. Mais diriez-vous, François Régis, que la France a, plus qu'en Angleterre, plus qu'en Allemagne, un rapport à la nourriture plus marqué, plus émotionnel peut-être?
Oui, très clairement. Alors ça se voit évidemment au succès des émissions de cuisine. Prenez l'exemple de Top Chef. Vous savez qu'au départ, Top Chef, c'est un format américain qui a été acheté par le groupe M6 et qui a été adapté en France. Simplement, le format Top Chef, qui par ailleurs est distribué dans une vingtaine de pays dans le monde, c'est en France qu'il a le plus de succès, à tel point qu'il a même été adapté à la sauce française, entre guillemets, à tel point que les Américains, désormais, lorsqu'ils vendent ce format dans d'autres pays occidentaux ou asiatiques, envoient les producteurs en formation en France, parce que vraiment la mayonnaise est montée en France, et ça a produit effectivement un programme qui a fait preuve d'une grande réussite. Alors ça s'explique évidemment par un engouement historique des Français pour la gastronomie. On a un patrimoine, je ne jouerai pas le chauvin au point de dire qu'on a le plus grand patrimoine culinaire du monde, mais enfin, on a quand même évidemment une culture gastronomique qui remonte à très longtemps. On a la chance par ailleurs d'avoir un terroir exceptionnel, salué par le monde entier dans sa diversité. On a des côtes, on a des plaines, on a des montagnes, donc il y a toute une diversité de climats, de reliefs qui a produit évidemment, avec évidemment le génie des hommes et des femmes producteurs, des produits tout à fait exceptionnels qui sont la matière première de nos cuisiniers.
Et vous avez toujours ce regard très sourcilleux et très pointu sur les produits locaux. Vous parlez de la France, l'Italie aussi aime faire la cuisine, elle aime en parler. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre, même plusieurs, François Régis. Les Italiens, ils restent nos principaux rivaux quand on parle de gastronomie européenne?
Oui, mais je parlerai pas forcément de rivaux, parce qu'il y a en fait une formidable amitié franco-italienne. Je m'en rends compte tous les jours, je suis passionné d'Italie, j'en ai appris la langue, j'y vais très régulièrement. Vous l'avez dit, Eric, j'ai consacré au patrimoine gastronomique italien également une encyclopédie. Et il est vrai qu'on a deux pays qui sont un peu différents et qui ont en même temps beaucoup de points communs. Alors évidemment, des terroirs tout à fait différents, des savoir-faire différents. Il y a également des points communs. Le point commun, c'est que nous sommes Italiens et Français, les deux recordman, avec une légère longueur d'avance pour nous autres Français, recordman du temps passé à table. Ça dit quelque chose.
Ah oui, c'est-à-dire ?
Nous avons plus de 2h30 de temps passé à table en France, et moi je dis souvent que le temps passé à table en France, on pourrait penser que économiquement c'est du temps perdu, alors qu'en fait c'est un temps très fructueux, à la fois pour nouer des relations, même sur le plan du business et de l'économie, mais aussi pour faire société. Être à table, c'est encore ce qui nous reste. Moi je dis souvent que la table en France, c'est l'une des rares choses qui n'est pas un ring de boxe, qui est encore un terrain d'entente. On fait société à table, le manger ensemble, le partager, me paraît être une valeur très forte qui, heureusement, a encore de beaux jours devant elle.
On aime discuter de cuisine, la cuisine comme une forme de sport national. On le voit dans ces émissions de télévision où il y a la compétition aussi. Les Français aiment défendre leurs recettes comme d'autres s'écharpent sur le rugby.
Alors il y a évidemment un chauvinisme culinaire français qui est très fort, mais vous évoquiez à l'instant l'Italie, je peux vous dire que eux aussi, ils sont très campés sur leur position. Regardez, il y a quelques années, l'exemple de ce Carbonara Gate qui a eu lieu parce qu'un Français, dans une vidéo sur les réseaux sociaux...
Crème ou pas crème?
Avait... Voilà, avait osé mettre de la crème dans la carbonara, et autant vous dire que ça avait fait un scandale de l'autre côté des Alpes. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette rivalité. Souvenez-vous aussi que lorsque les Français, en 2010, ont fait classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO le repas gastronomique des Français, c'est l'intitulé, ça a été la première fois qu'une gastronomie ou un savoir-faire ou un rituel culinaire était classé au patrimoine de l'UNESCO. Évidemment, les Italiens nous ont tiré dessus à bras raccourcis et ont été extrêmement jaloux. Mais cette rivalité, en fait,
elle
c'est
est
une
saine.
Petite guéguerre qui est tout à fait saine, parce qu'elle apporte évidemment beaucoup d'émulation. Moi, j'appellerais ça une douce concurrence qui fait qu'on a envie d'être les meilleurs, mais ça nous force aussi à défendre nos valeurs, défendre nos recettes, mais sans être replié sur soi-même. Moi, j'ai toujours considéré que la cuisine, c'était aussi une formidable ouverture au monde.
François-Régis Gaudry, vous restez encore avec nous. J'ai deux, trois questions à vous poser. Le temps de me tourner vers Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Eric.
Vous allez nous raconter, à base d'archives, l'histoire d'amour entre les Français et les émissions culinaires et comment elles reflètent finalement l'évolution de nos goûts.
Et ça commence en 53. La radio-télévision française lance les recettes de Monsieur X. Aucun lien avec l'autre Monsieur X.
Oui, qu'on connaît
un comédien, tablier blanc sur costume cravate, coupe les oignons en temps réel. Et croyez-moi, c'est un peu long. Un an plus tard arrive Raymond Oliver, le chef du Grand Véfour à Paris. Dans le rôle de l'ingénue, c'est Catherine Langeais. Le succès est immédiat, il ouvre la voie à tous les autres.
Si je faisais des crêpes sucrées, n'est-ce pas ? À ce moment-ci, j'ajouterais le parfum, je mélange une liqueur anisée et du rhum. Ensuite, voyez-vous, je m'en vais saler légèrement.
Ça, de toute façon, qu'elle soit sucrée ou salée, vous salez.
De toute façon. Et je vais ajouter immédiatement
la bière.
Maïté, on a des choses impressionnantes là devant nous.
C'est des anguilles.
Mais c'est énorme.
La grosse anguille qu'on a.
Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire ?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer. Viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon.
Oui.
Oh, viens là, ma chérie. Là, c'est rien.
Ça y est.
Hop.
Top Chef, c'est le concours d'excellence pour trouver le grand chef de demain.
Nous les mettrons au défi à travers des épreuves originales pour découvrir leur univers, leur technique.
Jus de carotte, à la place d'un jus de viande, c'est original.
Et leur personnalité en cuisine.
Alors vous aurez reconnu ou pas Raymond Oliver en 54, Maïté bien sûr, et ses anguilles,
oui,
sur, ça
épisode.
Marche à tous les coups, sur FR3 en 92, et Top Chef lancé donc par M6 en 2010.
Et l'évolution du style de cuisine est radicale. Hein.
Alors on passe en effet des recettes roboratives, du gras, de la viande, du vin, du sucre, au concept de plat signature, revisité, twisté, végétalisé, du chef intimidant façon Bocuse avec sa toque, au cuisinier tatoué ou qui goûte avec les doigts comme Cyril Lignac. Les chefs deviennent accessibles grâce aux réseaux sociaux. Julie Andrieux a commencé à la télé. Aujourd'hui, elle a 500 000 abonnés sur Instagram.
Aujourd'hui, je vous propose une recette ultra simple. C'est celle que vous préférez, je le sais, vous me le dites souvent. Des pâtes au citron. On va préparer mes pâtes au citron, parce que chacun a un peu sa recette. Alors moi, je mets de la crème, du citron bio évidemment, parce qu'on utilise surtout le zeste. Un peu d'ail aussi, je trouve que ça ne gâche rien. Et du parmesan. À table les enfants ! Alors, qui veut des pâtes au citron ?
Moi !
Ouais ! Donnez-moi vos assiettes ! Pour ceux qui n'aiment pas le poivre, enlève les grains, c'est pratique. Bon, alors, est-ce que c'est bon ?
Trop bon !
Incroyable ! Eh ben, il n'y a plus qu'à !
Voilà, il n'y a plus qu'à. L'évolution de la cuisine à la télé précède-t-elle ou suit-elle les changements d'habitude alimentaire des Français ? Alors, c'est un peu l'œuf ou la poule. D'un côté, les recettes, en effet, raccourcissent, se simplifient, s'allègent pour s'adapter au mode de vie. Et de l'autre, observe l'historien Olivier Roger, les émissions jouent aussi du décalage. Et si Maïté a tant marqué les esprits, c'est justement parce que sa cuisine était d'un autre âge. On n'est pas nombreux à avoir vraiment assommé des anguilles. Alors aujourd'hui, ces deux tendances coexistent. La petite recette express du placard et le spectacle. Du style cuisiné au sommet du Mont Blanc ou fabriquer un dessert qui bouge, la cuisine est partout, y compris bien sûr à la radio, car qui a besoin d'images quand il y a la faconde et les bruitages ?
Oh, c'est pas évident, hein ?
C'est pas évident d'en sortir de ces fêtes.
Enfin, toujours est-il, bienvenue dans Grand Palais. Oula, c'était dur. Vous avez encore les joues rouges et tièdes par tant de baisers déposés. Je vous le redis, belle année à table.
Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver des formules. Alors ayez vos petites fiches de recettes. Il y a des bouillons qui sont bien, on va pas faire les malades, hein, parce qu'on va tous très bien, mais des jolis bouillons qui sont même des bouillons séduisants, des choses que l'on peut...
Alors... Les bruitages, c'était sur France Inter en 99, et en résumé, Eric, tant qu'on aimera manger, eh bien, il y aura des émissions de cuisine.
Vous avez bien raison, Corinne Audouin, François-Régis Gaudry, quel regard vous portez sur l'un de vos prédécesseurs, on vient de l'entendre à France Inter, Jean-Luc Petit-Renaud.
J'appréciais beaucoup celui avec lequel j'ai grandi, dont j'ai regardé beaucoup les émissions à la télévision, que j'écoutais également sur France Inter. Après, il a été également sur sur Europe 1. Je le connaissais bien, je le côtoyais. Il nous a malheureusement quitté il y a quelques mois et je le regrette énormément, parce qu'en plus d'être un passionné de la cuisine familiale, de la cuisine bourgeoise, de cette bête cuisine de bistrot, c'était vraiment un artiste, un clown très facétieux. On l'entendait d'ailleurs dans l'extrait que Corinne a diffusé à l'instant.
Merci beaucoup François-Régis Gaudry. Je rappelle que vous publiez chez Marabout « On va déguster Paris » dans une nouvelle édition réactualisée. La précédente édition s'était vendue à plus de 220 000 exemplaires, toujours pour croquer la capitale à pleines dents, hein, c'est bien ça ?
Exactement, une grande encyclopédie, mais qui est aussi un guide avec plus de 2000 adresses pour croquer la capitale par tous les bouts et tous les goûts.
Et on vous retrouvera dimanche sur France Inter à 11h. On va déguster, ce sera sur quel thème ?
Ce sera une masterclass en public avec le chef Alexandre Gauthier, qui a 2 étoiles à la Madeleine sous Montreuil, à la Grenouillère. On est dans le Pas-de-Calais.
Merci François, Régis Gaudry.
Merci Eric.
Et à dimanche. Dans un instant, nous partirons à Bayonne, Clermont-Ferrand et Auxerre, le temps d'écouter The Staple Singers, une plongée dans les années 70. The Staple Singers en 1970. Vous écoutez Une Semaine en France. Juliette Gou à la réalisation, Emmanuel Leclerc, rédacteur en chef, et Benjamin Ducy à la préparation.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Pays Basque, ICI Clermont-Ferrand, ICI Auxerre, Paul Nicolai, Olivier Vidal et Delphine Martin. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
À Bayonne, on va commencer avec vous, Paul Nicolai. On a commencé d'ailleurs à évoquer le sujet dans le journal de 13h aujourd'hui, l'inauguration du musée Bonnat et Le, en présence de la ministre de la Culture. Ce musée de Bayonne a revu tous ses dispositifs de sécurité et ça pourrait même servir d'exemple au musée du Louvre.
Oui, en tout cas, lors des travaux de rénovation du musée, qui ont duré 4 ans et coûté près de 30 millions d'euros, les promoteurs du projet n'ont pas lésiné sur la sécurité. Afin de protéger des œuvres de Rubens, Raphaël, Léonard de Vinci ou Michel-Ange, pour ne citer que, sécurité donc, avec un double système de vidéosurveillance, celui de la ville de Bayonne, des caméras installées dans toutes les rues du centre urbain autour du musée Bonnat, et puis les images sont centralisées dans un poste de commandement de la mairie, géré par la police municipale. Un dispositif renforcé par le propre réseau de caméras du musée à l'intérieur et à l'extérieur. Là, les images sont transférées dans un PC installé entre les murs du bâtiment, mais aussi vers le poste de police municipale qui dispose ainsi d'une double source d'information. Jour et nuit, des agents de sécurité sont également présents constamment et circulent dans les 22 salles et dans les sous-sols du musée qui possède une collection de 7000 œuvres, un millier exposées en permanence, le reste dans les réserves. Rachida Detti a donc fait le tour du propriétaire mercredi, mais pas un mot sur la sécurité. Personne d'ailleurs ne s'est aventuré sur ce terrain-là, même si le fiasco du Louvre était encore dans toutes les têtes, d'autant que la directrice du musée parisien, Laurence Descartes, était là, pas simplement pour le protocole, mais parce qu'une grande partie des œuvres appartient au Louvre, des chefs-d'œuvre a priori en sécurité à Bayonne.
Paul Nicolai à Bayonne. Nous partons à Clermont-Ferrand. Olivier Vidal, Clermont-Ferrand où la police veut maintenir la pression sur les points de deal de la ville.
Oui, la police et l'État, vous vous souvenez de la venue de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à Clermont en septembre dernier. C'était après un début d'année sanglant, de nombreux règlements de compte, des blessés, puis surtout dans l'agglomération, ce jeune retrouvait un couteau planté dans la tête, son corps partiellement calciné, la scène filmée, paroxysme d'une volonté d'intimidation des narcotrafiquants. Et bien, dans la foulée de tout ça, la ville a bénéficié du dispositif sécurité renforcé, des renforts policiers évidemment, pour démanteler les points de faire du harcèlement, ce sont les mots des autorités.
Et d'ailleurs, selon le préfet du Puy-de-Dôme, Joël Mathurin, qui était l'invité d'ici Pays d'Auvergne ce matin, eh bien ça fonctionne.
Oui, deux gros points de deal ont été démantelés dans le centre, également à la périphérie. Notre a vu son activité baisser. Au total, 1000 personnes interpellées, 33 interdictions de paraître dans les quartiers visés. Condamnation rendue possible par la nouvelle loi sur le narcotrafic. Officiellement donc, les résultats sont là. C'est plutôt rassurant. Certaines batailles semblent pouvoir être gagnées dans cette guerre contre le narcotrafic. Maintenant, la question c'est de savoir jusqu'à quand les points de deal vont rester démantelés. C'est sur la durée de ces résultats que l'enjeu repose à présent, également savoir si toute cette activité de narcotrafic ne s'est pas déplacée sur d'autres sites en devenir.
De Clermont-Ferrand, et merci à Olivier Vidal, nous partons à Auxerre, Delphine Martin, avec un Fab Lab, c'est-à-dire un espace de création et d'innovation. Le Fab Lab à Auxerre vient d'organiser une journée pour apporter toutes sortes de solutions au quotidien des personnes en situation de handicap.
Oui, ça se passe à Paron, précisément. C'est une commune située au nord du département de l'Yonne. Cela fait un an déjà que l'équipe de ce Fab Lab, la Multiprise, travaille avec des associations sportives, des personnes handicapées, des établissements spécialisés pour concevoir des objets ou des accessoires qui peuvent changer le quotidien des habitants porteurs de handicap. Ça peut aller de la fabrication d'un petit accessoire tout simple pour faciliter la prise en main d'une assiette, par exemple, à des objets beaucoup plus techniques. L'équipe est notamment en train de travailler à la conception d'une troisième roue motorisée qui se fixe à l'avant des fauteuils roulants manuels, ce qui permet de passer d'une vitesse de 3 km par heure à 15 km par heure sans effort et surtout à moindre coût. Ils ont aussi conçu une imprimante en braille qui va voir le jour l'année prochaine. Et puis dernier exemple, un bénévole est en train de travailler sur une souris gyroscopique qu'on peut déplacer avec le mouvement de la tête. Bref, plein d'idées qui peuvent faciliter la vie des personnes handicapées sans que ça leur coûte trop cher. Et tout cela conçu par des bricoleurs, des personnes qui maîtrisent les outils numériques et les outils tout court d'ailleurs, et qui mettent en commun leurs compétences, leur énergie pour inventer des solutions pratiques. Et en plus, ils font ça bénévolement.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos indispensables collègues et amis du réseau ICI. À suivre sur France Inter, le journal de 19h de François Geffrier. Et puis à 19h20, ce sera le téléphone sonne sur le Black Friday 01 45 24 7000 pour vos appels.